7h20 sur France Culture, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
La résurrection de Jésus-Christ que commémore la fête de Pâques est un moment fondamental de la théologie chrétienne.
Oui, dans un livre qui vient de paraître au Seuil sous le titre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », Daniel Marguerat consacre un chapitre à cet épisode central à la fois dans le parcours du Messie et pour la postérité de son message. L'historien et bibliste revient sur le débat ouvert dès les premiers temps du christianisme, puis dans la recherche historique, sur la réalité de cet événement dont il rappelle l'inscription dans une ancienne tradition du judaïsme, la foi en la résurrection des morts. Elle exprime la conviction que la justice de Dieu triomphera dans l'au-delà, même si dans l'histoire, mal et souffrance s'imposent. L'originalité de la résurrection de Jésus est d'avoir incarné cette foi et de l'avoir en quelque sorte attestée dans sa personne, apportant ainsi la preuve concrète de la vérité de son message sur le règne de Dieu ici et maintenant. En lisant de près les différents récits de cet événement, l'auteur souligne, malgré leurs divergences, l'élément commun de l'apparition du ressuscité. C'est le verbe « voir » qui renvoie à un phénomène de vision. Vision et songe sont considérés traditionnellement comme une médiation de la révélation divine. C'est pourquoi, après un temps d'abattement et de dispersion, de crainte de subir le même sort, disciples et apôtres se rassemblent à Jérusalem dès lors que l'annonce de la résurrection se répand. Ces phénomènes visionnaires ont reconstitué le groupe des amis de Jésus pour qui désormais la prétention du Nazaréen d'agir au nom de Dieu avait été validée. C'est ainsi que, également, que les récits de Pâques servent à légitimer les autorités reconnues dans les premières églises. Pierre, le premier témoin dans l'évangile de Luc, les apôtres ou Jacques, frère du Seigneur dans l'évangile apocryphe des Hébreux comme figure de légitimation du judéo-christianisme et chef de l'église de Jérusalem. Il s'agit donc aussi, ajoute Daniel Marguerat, d'ancrer l'évangélisation chrétienne qui débute aussitôt après Pâques. Le mandat missionnaire est délivré par le ressuscité. Et en retour, sa vie, ses faits et gestes, ses paroles acquièrent une résonance nouvelle. Les évangiles s'emploieront à les décrire, animés par la conviction de faire mémoire d'une existence et d'une action habitée par Dieu. Dans la dernière livraison de la revue Études, Daniel Marguerat pose la question de la recherche historique concernant la vie de Jésus. S'il faut renoncer à tracer une biographie précise, nous disposons de sources fiables et de mettre en relief deux traits principaux, sa pratique de guérison et son inscription dans le judaïsme. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il a fallu attendre les années 1980 pour que les chercheurs réalisent que Jésus était juif à 100% et contreviennent à l'image caricaturale du judaïsme du 1er siècle, celle d'un rigorisme monolithique alors qu'il était riche d'une multiplicité de courants en discussion les uns avec les autres. Réinscrire l'enseignement de Jésus dans ce contexte lui donne une autre dimension, celle d'un débat non pas contre le judaïsme, mais à l'intérieur du judaïsme. C'est vrai pour son dédain affiché à l'égard des règles de pureté, essentielles pour le maintien de la sainteté du peuple élu, une conception néanmoins défensive et exclusive à laquelle le Christ oppose une conception inclusive. Le rapport à autrui n'est plus stigmatisé comme un risque potentiel de souillure, mais comme le lieu où le croyant est appelé à concrétiser sa pureté et sainteté. C'est vrai aussi de son audacieux télescopage du commandement d'amour dans sa version divine du Deutéronome « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur », etc. et dans celle du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour d'autrui est élevé à la hauteur de l'amour dû à Dieu. La ressemblance avec Dieu permet à l'homme d'être par grâce ce que Dieu est par nature. C'est ainsi que Jacques Lebrun résume une part du message d'Angelus Silesius, un grand mystique du XVIIe siècle, lecteur assidu de Maître Eckhart, Jean Tolère, Jacob Boehm ou Jean de la Croix, auteur d'un recueil au titre évocateur, Le Pèlerin chérubinique. Le livre de Jacques Lebrun est intitulé « Dieu, un pur rien », en référence à la tradition paradoxale de la mystique rhénane qui emboîte le pas à la théologie négative, laquelle s'employait à définir Dieu par tout ce qu'il n'est pas pour aboutir au néant. Dieu, un pur rien, je cite Angelus Silesius, Dieu est un pur rien, plus tu veux le saisir, plus il t'échappe. De Leibniz ou Schopenhauer à Heidegger, Derrida et Lacan, Jacques Lebrun revient sur les lectures fécondes de cet auteur. Si je n'étais pas là, eh bien c'est simple, toi, Dieu, en tant que Dieu existant, tu n'y serais pas non plus. Lacan a lu intensément Silésius, il apparente l'expérience mystique à celle de la psychanalyse, notamment par cette autre phase de la parole qui est la révélation. Et du coup, si Dieu n'existait pas, ou si Dieu n'existe pas, question lacanienne, est-ce que moi j'existe ?